18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Au début, ça sent pas très bon, et puis après, c'est un peu en plastique, et puis tu respires du plastique un peu toute la journée, donc. Et puis c'est moins doux que le tissu.
Et oui, c'est moins doux. Fini les masques faits maison. Désormais, à l'école, le masque de catégorie 1 est obligatoire pour tous. Depuis ce matin, le protocole sanitaire est encore renforcé face à la menace des nouveaux variants.
Olivier Véran montre l'exemple. Le ministre de la Santé a reçu aujourd'hui la première injection du vaccin AstraZeneca.
Le maire Rassemblement National de Perpignan, lui, veut braver la loi. Il ouvrira demain 4 musées municipaux. En dépit de l'interdiction, Louis Alliot sera en ligne avec nous dans ce journal.
Le feuilleton Veolia-Suez et une offre d'achat tout sauf amicale. Jamais encore on a connu un tel affrontement entre deux géants français, nous dira Emmanuel Duteil.
Une nouvelle expertise judiciaire dans l'affaire Adama Traoré. Cette fois, ce sont des médecins belges qui se sont penchés sur les causes de la mort du jeune homme. Ils imputent son décès à un coup de chaleur conjugué aux manœuvres effectuées par les gendarmes lors de son interpellation. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,47% à 5686 points.
Et puis la météo, on verra tout à l'heure que le niveau de la Charente commence enfin à se stabiliser dans la ville de Saintes. La météo, c'est avec Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
De la neige retour demain dans l'Est, en Bretagne,
et pas dans l'Ouest. Ouais,
dans l'Ouest,
fait.
Voilà. En masse, je vais y arriver.
De la neige toute la journée sur la Bretagne. Demain, on risque d'atteindre des valeurs qui n'ont pas été vues en Bretagne depuis plus de 10 ans. Les températures baissent encore demain avec un bon coup de froid sur le nord. La neige arrive aussi sur Paris. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et un nouveau protocole sanitaire est donc entré en vigueur ce matin dans tous les établissements scolaires face à la menace des variants britanniques, sud-africains et brésiliens.
Avec notamment, oui, l'obligation pour tous, élèves et enseignants, de porter des masques de catégorie 1. On oublie donc les jolis masques en tissu, cousus avec amour, mais pas assez efficaces.
Sauf que les enfants en particulier s'y étaient attachés, hein, à ces masques à l'effigie de Batman avec des petites fleurs ou des petits papillons ou aux couleurs de leur club de foot préféré. Mais finalement, en Marine Protée, eh bien, le message semble plutôt bien passé. Dans cette école élémentaire du 15e arrondissement de Paris où vous vous trouvez?
Oui, à la sortie de l'école, quasiment que des masques chirurgicaux sur les visages des enfants. Pour Camille, 10 ans, c'était une grande première et elle n'a pas du tout aimé.
Déjà, au début, ça sent pas très bon et puis après, c'est un peu en plastique et puis tu respires du plastique un peu toute la journée. Donc, et puis c'est moins doux que le tissu.
Et c'est parfois aussi trop grand pour leur visage. Enguerrand a emprunté un masque chirurgical à sa mère ce matin. Mais rapidement, ce petit garçon de 7 ans a trouvé l'astuce.
J'ai dû tourner le fil du masque autour de l'oreille parce qu'il ne tient pas si je le plie qu'une seule fois ou deux fois.
Ses parents n'ont pas été prévenus par l'école, pas de mail ni de mots dans le cahier pour expliquer qu'à partir d'aujourd'hui, les masques faits maison sont interdits. Stéphanie l'a appris par les médias, elle a donc pris les devants dès la semaine dernière.
Au début, je voulais lui donner des masques à moi, que j'avais de par mon employeur des tailles adultes, et en fait, ça la gênait beaucoup. Donc, je lui ai acheté des masques de taille enfant, que j'ai trouvé dans une parapharmacie, et pas très cher.
15 euros la boîte de 50, mais pour cette maman, le problème n'est pas le prix, mais plutôt qu'elle se retrouve désormais avec un stock de masques artisanaux dont elle ne sait pas quoi faire.
Merci. Reportage, j'attendais la suite, pardon, de Marine Protée dans le 15e arrondissement de Paris. Notez que plusieurs cas du variant sud-africain ont été dépistés dans un collège d'Aubonne dans le Val-d'Oise. Résultat, l'établissement est fermé.
Il est le tout premier ministre à se faire vacciner. Le ministre de la Santé donne l'exemple.
Olivier Véran a reçu ce matin sa première dose d'AstraZeneca à l'hôpital de Melun, en Seine-et-Marne. Le ministre de la Santé, qui est aussi, on le rappelle, médecin neurologue. Les personnels de santé sont prioritaires. Ils ont donc profité de ce nouveau vaccin réservé au moins de 65 ans, Anne Le Gall.
Voilà, 11h35 ce matin, le ministre a rempli son questionnaire de pré-vaccination avant de déboutonner sa chemise et présenter le haut du bras à une infirmière.
Vous me dites quand vous piquez?
Bah, je suis déjà.
Ah bon?
Ça va?
Ah bah oui, super rapide. Rien sorti.
0,5 minutes.
Olivier Véran est ensuite resté quelques minutes en observation, comme le veut le protocole, avant de ressortir et d'encourager tous les soignants à se faire eux-mêmes vacciner.
J'invite l'ensemble des soignants à se faire vacciner dans leurs hôpitaux, dans les centres de ville, toutes les structures qui sont à leur disposition pour pouvoir se protéger au plus vite. Et vous le voyez, bien qu'ayant reçu une injection de vaccin, je porte toujours le masque, je mets du gel hydroalcoolique, je respecte l'ensemble des gestes barrières. Bref, je ne relâche pas la vigilance.
Et la France a déjà reçu 273 000 doses de ce vaccin AstraZeneca pour une vaccination pour l'instant réservée aux soignants de moins de 65 ans. 300 autres doses sont attendues. 300 000 doses sont attendues dans les jours qui viennent. Et d'ici à la fin du mois, ce vaccin qui ne se conserve que dans un simple frigo pourra être administré aux personnes de 50 à 65 ans en passant par les médecins de ville et les pharmaciens. Interrogé sur l'efficacité de ce vaccin AstraZeneca face aux variants, le ministre s'est voulu rassurant. Ce vaccin est efficace contre 99% des coronavirus circulant en France actuellement.
Merci. Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Le Portugal, à présent, pays le plus touché au monde en nombre de contaminations et de décès, au prorata évidemment de sa population, a reçu aujourd'hui le soutien d'une équipe de 26 soignants de l'armée allemande. On sera sur place à Lisbonne dans le journal de 19h.
Le maire Rassemblement National de Perpignan, lui, a décidé de braver la loi.
Louis Alliot a décidé effectivement la réouverture à partir de demain de 4 musées municipaux, ce qui est totalement illégal. Ce matin, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, disait que les musées seraient les premiers à rouvrir, mais seulement quand une décrue de l'épidémie serait constatée.
Le maire de Perpignan, qui est en ligne avec nous ce soir sur Europe 1. Bonsoir Louis Alliot.
Bonsoir.
Il y a aujourd'hui 3 variants, au moins, qui circulent en France. Le britannique, le sud-africain, le brésilien. Est-ce que ça n'est pas déraisonnable d'aller à rebours des consignes gouvernementales ?
Écoutez, la pandémie, ça fait maintenant un an que nous sommes dedans. Il y a certes des variants, mais à ce moment-là, il faut reconfiner tout. On ne peut pas confiner d'un côté, ne pas confiner le reste. Et je regarde, moi, que les paroles de Mme Bachelot ce matin étaient plutôt de nature à laisser entrevoir une amélioration, et notamment en ce qui concerne des lieux qui sont contrôlés, qui sont sanitairement sûrs. Et à partir du moment où on respecte le protocole sanitaire, ce n'est pas plus dangereux d'aller visiter un musée à Perpignan que d'aller dans un supermarché ou aller faire ses courses.
Sauf que la ministre de la Culture dit qu'elle ne réouvrira les musées et les monuments qu'à condition que la situation s'améliore, qu'il y ait une décrue, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
Oui, mais écoutez, le problème, c'est aussi les populations qui aujourd'hui n'en peuvent plus. Donc moi, je me permets de dire que c'est un savant dosage entre respect de la santé publique et l'équilibre des mesures sanitaires. Et je pense que c'est aussi un droit à l'expérimentation à l'échelle locale.
Louis Alliot, c'est terrible ce que vous dites. Vous allez faire une expérimentation dans votre ville. Ça veut dire que si jamais des Perpignanais tombent malades, vous êtes prêt à prendre le risque, à en assumer les conséquences ?
Vous croyez que quand ils fréquentent le supermarché à côté du musée, ils ne prennent pas les mêmes risques que quand ils vont au musée ?
Qu'est-ce que vous ferez demain si la préfecture vous dit non ? Vous ouvrirez quand même
ces
musées ?
On verra ce que l'on fait. Il y a la justice pour cela, comme pour les commerçants. Mais je remarque aujourd'hui que systématiquement, on fait prendre donc des risques à notre population par rapport à ce que vous venez, vous, de me dire, pour aller dans les supermarchés s'agglutiner à faire des courses, et qu'on ne pourrait pas le faire pour aller se nourrir culturellement et philosophiquement dans les musées, notamment dans les musées de Perpignan, qui sont à dimension, évidemment, humaine, où on peut exercer un contrôle à l'extérieur.
Eh bien, merci Louis Alliot, maire Rassemblement National de Perpignan, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1.
Oui, ce soir, la préfecture indique qu'elle prépare un recours devant le tribunal administratif contre la réouverture de ses musées, justement à Perpignan. Donc, la justice dit non, le maire de Nice n'a pas le droit d'interdire les locations saisonnières dans sa commune pendant les vacances. On part donc à Nice.
Oui, le tribunal administratif suspend l'arrêté municipal. Vous savez, Christian Estrosi voulait éviter l'afflux de touristes pour freiner la propagation de l'épidémie.
On en vient à cette guerre sans merci dans le monde économique que se livrent depuis plusieurs mois les deux géants français, Suez et Veolia, mais qui a atteint son paroxysme ces dernières heures.
Hier soir, Veolia a lancé une OPA surprise sur Suez. Son concurrent a réussi ce matin à l'en empêcher grâce à une décision de justice qui suspend l'opération. En tout cas, une telle bataille à la Bourse de Paris, c'est rarissime, Emmanuel Dutheil.
Alors, certains de nos auditeurs se souviennent peut-être de Total Elf, de BNP face à Société Générale pour mettre la main sur Paribas, ou encore du duel, il n'y a pas d'autre mot, entre l'ex-PPR et LVMH pour mettre la main sur Gucci. Des batailles homériques, mais rarement nous étions allés aussi loin dans le œil pour œil, dent pour dent, et rarement nous étions allés aussi loin sur les noms d'oiseaux par médias interposés. Imaginez ce que ça peut donner une fois les micros fermés. Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour que ça se passe ainsi, selon François Chollet, directeur général de la société de bourse Montségur Finance.
Ce sont deux groupes qui cristallisent de très nombreuses décennies de concurrence sur un marché qui était le marché français, deux cultures d'entreprise très fortes qui donnent aujourd'hui deux managements relativement opposés et surtout les prémices d'une bataille qui ne fait que commencer.
En effet, hein, on est encore loin de l'issue, ce qui énerve au plus haut point le gouvernement. Ce matin sur Europe 1, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a tenté de sonner la fin de la bataille, sans succès pour le moment. Il faut dire que les positions des deux groupes semblent totalement irréconciliables. Et les coups ne semblent donc pas prêts de s'arrêter.
Emmanuel Détail, chef du service Écho d'Europe 1.
Et suite du feuilleton demain matin, à l'antenne d'Europe 1, puisqu'à 7h40, Mathieu Béliard recevra dans la matinale le patron de Suez, Bertrand Camus.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 18h11 avec cette affaire judiciaire qui a fait couler évidemment beaucoup d'encre. L'affaire Adama Traoré, du nom de ce jeune homme de 24 ans, mort en 2016 après son interpellation dans le Val d'Oise.
Et qui est régulièrement brandi par certaines associations pour dénoncer les bavures policières et pour relancer le débat sur l'utilisation du plaquage ventral lors des interpellations. Elle a suscité aussi de nombreuses réactions politiques et des rebondissements judiciaires. Et bien, les conclusions d'une nouvelle expertise viennent d'être présentées aujourd'hui, Gladys Laffitte, et elle conclut un coup de chaleur aggravé par l'interpellation.
Oui, c'est la cinquième expertise judiciaire ordonnée par des magistrats qui ont fait le tour des spécialistes français et sont allés chercher des médecins belges pour déterminer les causes de la mort d'Adama Traoré. Ces experts estiment que les manœuvres de contrainte des gendarmes pour interpeller Adama Traoré, c'est-à-dire le menottage et le plaquage ventral, ont vraisemblablement contribué à son décès, ont été un facteur aggravant, écrivent-ils. Pour eux, l'action des gendarmes a donc joué un rôle. C'est la thèse défendue depuis le début par la famille Traoré et leur avocat, maître Yassine.
Il y a également un coup de chaleur qui est mis en avant, mais les médecins expliquent clairement qu'un coup de chaleur seul ne peut pas expliquer le décès, mais par contre que le plaquage ventral, c'est-à-dire le fait que les gendarmes se soient mis sur M. Traoré qui est allongé sur le ventre, a contribué, provoqué le décès.
On le rappelle, Adama Traoré avait aussi des antécédents médicaux, mais qui ont pu, dans une plus faible mesure, contribuer à son décès, selon les experts. Maladie qu'ignoraient les gendarmes, soulignent leurs avocats. Ils le répètent aujourd'hui, les gestes réglementaires opérés l'ont été au regard de la rébellion d'Adama Traoré. Sous-entendu, il n'y a pas eu d'usage excessif de la force.
Les précisions de Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Sur le front des inondations maintenant, dans le sud-ouest, le niveau de la Charente s'est stabilisé. A priori, le pire est passé et les habitants tentent de reprendre le cours de leur vie grâce à la solidarité notamment, comme l'a constaté Stéphane Place dans la ville de Saintes.
C'est leur bureau de courtage en crédit immobilier ici au cœur de Saintes que Nathalie et Dominique ont protégé comme ils ont pu.
Deux fois par jour, on vient voir, on a isolé tous les meubles.
Il me restait simplement le bas de la porte vitrée, là, avec une marche, donc avec une bavette en caoutchouc. J'ai réussi à sécuriser. Et normalement, la décrue va s'amorcer. Il me restait 5 cm avant que ça rentre dedans, donc ça devrait être bon.
C'est la première fois que je vois la place Bassompierre, donc avec l'Arc de Triomphe, les pieds dans l'eau, c'est la première fois que je le vois, franchement.
Un peu plus loin, c'est le restaurant de Valérie et de son mari que l'eau a fini par envahir, mais pas question de baisser les bras.
Les pompiers sont venus hier, on leur avait demandé juste les parpaings. Ils ont dit oh non, on est là, on vous le fait. Et c'est vrai qu'en deux temps, trois mouvements, ils avaient tout soulevé, tout surélevé. Ça nous a boosté. Les clients, le nombre de messages qu'on reçoit, c'est incroyable. Ça fait vraiment du bien, quoi. On va rebondir. Non ?
Une crue assez rapide, un pic atteint à la mi-journée et l'espoir d'une décrue qui pourrait aller un peu plus vite que par le passé. Bruno Draperon est le maire de Saintes.
Il y a environ un millier de maisons où les murs ont pris l'eau. Ça dépend aussi des eaux qui sont rentrées chez vous. Quand les eaux sont claires comme ici, ça va à peu près. Mais des endroits où il y a des cuves à fioul qui ont fui. Donc on a aussi certaines petites pollutions qui sont venues dans les murs.
Le bout du tunnel, le début de la fin, c'est ce que nous répètent les sinistrés ici qui espèrent voir la Charente enfin regagner son lit. Saintes, Stéphane Place, Europe 1.
Merci Isabelle pour le journal. Isabelle Millet qu'on retrouve à 18h30 pour le rappel des titres. La météo avec Anissa qui nous a retrouvés et qui nous annonce ce nouvel épisode neigeux qui va être assez massif hein, dans
oui.
L'Ouest.
Ouais, et c'est d'abord en Bretagne que la neige va le plus tomber, un épisode de neige notable. Demain, les quantités de neige en Bretagne seront celles qu'on n'avait pas vues depuis plus de 10 ans. Donc ça va vraiment devenir tout blanc. On attend jusqu'à 10 cm de neige en plaine. D'ailleurs, les 4 départements bretons sont passés en vigilance orange, neige et verglas. Forcément verglas, parce que vous le verrez dans un instant, les températures sont négatives. Et du coup, belle création de plaques de glace. Oui. Au fil des heures,
et
les chutes de neige...
Et la neige va tenir au sol,
surtout. Et la neige va tenir, voilà, le sol est froid, la neige va tenir. Au fil des heures, les chutes de neige vont s'étendre le long du Val-de-Loire. Dans la soirée et la nuit prochaine, la neige arrive sur Paris et la région parisienne. Avec les températures négatives, ça va tenir. Et attention, donc, aux glissades en voiture ou à vélo. Dans le sud-ouest, la pluie est de retour demain, puisqu'il fait plus chaud, la neige se transforme en pluie. Attention, Le Pas-de-Calais et le Nord sont passés en vigilance orange grand froid parce qu'écoutez bien, demain, les gelées vont se généraliser. Nous aurons moins 6 à Lille et Dunkerque, moins 4 pour Paris, moins 3 à Nantes, moins 2 à Nancy et Strasbourg, moins 1 à Caen, 0 à Brest et jusqu'à 9 degrés sur la moitié sud. Demain après-midi, pas de dégel et c'est pour ça qu'on passe en vigilance grand froid. Pas de dégel sur la moitié nord. Demain après-midi, nous aurons moins 3 à Lille, 1 degré à Paris, 3 à Rennes et Belfort et jusqu'à 16 degrés au bord de la Méditerranée.
Oui, d'ailleurs, tous les transports scolaires ont été annulés demain en Bretagne. Merci Anissa, vous revenez nous voir pour un nouveau point à 18h30.
Europe 1, écoutez le monde changer.